présidentielle américaine, édition spéciale, veille électorale 2020 sur VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seydoudia, en compagnie ce matin de Timothée Donangmaï, Jean-Roger Bion, Lionel Gahima à la mise en onde et nos invités. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden attendent, tout comme leurs concitoyens, les résultats officiels de l'élection présidentielle du 3 novembre pendant que se poursuit le décompte des voix. Des dizaines de millions d'Américains ont voté hier et avant eux plus de 101 millions d'autres dans le cadre du vote anticipé, en partie pour éviter les longues queues devant les bureaux de vote en raison de la pandémie de coronavirus. Le dépouillement des votes par correspondance prendra certainement du temps dans certains États. Édition spéciale veille électorale 2020 sur VOA Afrique, tout de suite avec Jean-Roger Bion. Que sait-on pour l'heure des résultats, Jean-Roger?
Eh bien, bonjour Idrissa, bonjour à nos auditeurs. Le candidat démocrate Joe Biden, selon VOA, obtient à ce moment précis où je vous parle 205 grands électeurs, selon donc les prévisions de la Voix de l'Amérique. Ces mêmes prévisions créditent le président républicain sortant Donald Trump de 100 grands électeurs, mais rien n'est joué à ce stade. Il ne faut pas faire de comptabilité pour désigner un gagnant à ce stade. Comme vous le savez, les candidats doivent se partager un total de 538 grands électeurs qui composent le fameux collège électoral et une majorité de 270 est nécessaire pour être élu président des États-Unis. Pour le moment donc, 205 grands électeurs pour Joe Biden et 100 pour Donald Trump. Joe Biden a pu conquérir des grands États comme la Californie, le Nouveau-Mexique, le Colorado. Mais il reste beaucoup d'États encore à dépouiller et Donald Trump veut faire la surprise de 2016 comme il a dit lors de sa campagne. Il reste donc beaucoup d'États dont le dépouillement doit tomber avant de commencer à faire des calculs, des pronostics. La question est de savoir si au bout de cette nuit on connaîtra celui qui atteindra les 270 et qui gagnera donc la course à la Maison-Blanche. Les chances d'y arriver sont infimes si l'on en croit l'ensemble des médias américains. Plus de 100 millions d'électeurs, vous le savez, ont voté par anticipation avant cette Election Day, soit par voie postale, soit en personne dans les bureaux ouverts à l'avance, un record qui pourrait donc retarder le dépouillement et faire naître une vive incertitude quant à l'identité du futur occupant de la Maison-Blanche. Cela dit, hier, pendant Election Day, il y avait le siège du Congrès américain à combler. Cette élection était couplée donc aux élections sénatoriales et parlementaires. 35 sièges sur les 100 que compte le Sénat sont à pourvoir. Il faudra donc attendre pour connaître l'issue de cette course dans les différents États. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que le chef de la majorité républicaine au Sénat américain et allié donc du président Donald Trump, Mitch McConnell, a été réélu dans son État du Kentucky, selon les médias américains. Ce conservateur âgé de 78 ans a battu une candidate démocrate, ex-pilote de chasse, Amy McGrath. Mitch McConnell donc retrouve son siège à la Chambre haute du Congrès, où il siège depuis janvier 1985. Je vous retrouve donc dans un peu moins de 10 minutes pour un nouveau point de cette élection. À tout à l'heure.
Merci Jean-Roger Bien. Maintenant, en compagnie de Timothée Donangmaï, nous accueillons nos invités, le professeur Jim Caesar, University of Virginia, Charlottesville, le professeur Edgar Colley, Bellingham, Washington State, et notre confrère René Lake, analyste politique basé à Washington. Tim, je vous cède l'antenne.
Bonjour professeur Caesar, bonjour professeur Colley, bonjour René Lake. Bonjour à tous. Alors, professeur Caesar, ces élections historiques ont un grand enjeu pour les Américains et elles ont suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'inquiétudes, des soucis, de violences, d'incidents dans le déroulement du scrutin. Mais en fin de compte, tout s'est plutôt bien déroulé. Alors, comment expliquer cela, professeur Caesar? ce point, ça va, on va continuer à compter, on ne sait pas le résultat. Ça va durer probablement 2-3 jours au minimum pour déterminer le résultat, sauf la possibilité qu'une personne peut gagner deux états ce soir ou demain matin et gagner. Mais c'est vraiment juste entre les deux.
Alors, professeur, on n'a pas effectivement encore les résultats en Pennsylvanie et dans le Wisconsin et aussi au Michigan, des États qui ont été cruciaux à l'élection, à la grande surprise de 2016. Professeur Edgar Colley.
Oui, et c'est un peu le suspense maintenant, parce que si on regarde les résultats qui tombent goutte à goutte, Donald Trump est en tête, mais effectivement c'est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Et je crois qu'au niveau des démocrates, ils doivent quand même faire très attention parce que la surprise de 2016 pourrait se répéter. Nous sommes devant un candidat, M. Trump, qui est formidable, qui a sillonné les États-Unis et ses États en particulier. Et donc les prochaines heures vont nous édifier davantage. Mais pour le moment, il est en bonne position, même si c'est encore un peu trop tôt pour se prononcer.
Tim?
De grosses surprises sur cette carte électorale de la Voix de l'Amérique. Le président Trump s'impose dans les États traditionnellement républicains et le vice-président Joe Biden fait de même dans les États démocrates.
René Lake.
Oui, Idrissa, écoutez, moi, ce que je vois, c'est que au fond, c'est un peu ce que les deux derniers intervenants mentionne, c'est une combinaison un peu des deux. D'un côté, et c'est la question que je me pose, est-ce que nous sommes dans le schéma de 2016 où Donald Trump est arrivé à maintenir, à garder le mur rouge et à basculer, à embêter, à piétiner un peu, à déconstruire le mur bleu en gagnant le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie? Est-ce le schéma dans lequel nous sommes ou est-ce plutôt le schéma de 2018 où un tsunami était annoncé, une vague bleue était annoncée et le jour de l'élection, effectivement, les démocrates, on a vu qu'ils avaient gagné, mais on n'avait pas vu de vague bleue. Mais c'est 2 semaines après qu'on s'est rendu compte que c'était l'une des plus grosses vagues dans l'histoire des midterm elections, des élections à mi-mandat. Donc je ne sais pas trop, je suis incapable de dire au moment où nous parlons dans quel schéma nous sommes, mais il semblerait en tout cas que Donald Trump a réussi à tenir son mur rouge, bien que l'Arizona, qui est un État rouge, va peut-être basculer du côté bleu, et la Géorgie aussi, rien n'est encore certain. Maintenant, pour Biden, il va falloir attendre les résultats du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie. Le Michigan et le Wisconsin, les sondages lui étaient très très favorables. On peut imaginer qu'il va peut-être les gagner, mais là, et tout se jouera maintenant sur la Pennsylvanie. S'il gagne la Pennsylvanie, il remportera l'élection. S'il ne la gagne pas, tout va dépendre de ce qui va se passer entre l'Arizona et la Géorgie. Donc, dans tous les cas, nous sommes dans une situation d'une élection très serrée, contrairement à ce que certains stratégistes démocrates pensaient.
Professeur Jim Caesar, les sondages, que ce soit pour l'élection, enfin le vote populaire, et aussi était largement en faveur de Joe Biden. Et puis dans les États clés, c'était très serré. Mais quand même, Joe Biden était en tête. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Alors, à mon avis, les sondages ont tort. En général, ils ont eu tort en 2016. Donc, je me méfie complètement des sondages. C'est le résultat définitif de l'élection qu'on ne peut pas se fier à des sondages. C'est simple. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais c'est la réalité. Les sondages ne disent pas la vérité.
Professeur Edgar Colley.
Oui, en fait, les sondages sont tout simplement, les sondages nous donnent une idée du côté où pensent certains électeurs. Mais comme nous l'avons vu en 2016, ils sont totalement passés à côté. Hillary était donnée gagnante dans presque beaucoup d'États et au final, nous avons vu ce qui s'est passé. Et donc, moi, je rejoindrai notre collègue qui vient de s'exprimer tout à l'heure. Les sondages donnent une image totalement incomplète. C'est tout simplement cela. Ou du moins, ils donnent une image totalement incomplète, mais c'est tout simplement une image. Aujourd'hui, évidemment, si on se fie à ces sondages, et moi, je me méfie, c'est que Biden aurait gagné ici et là, mais au final, comme on le voit, la réalité est que les électeurs, ou certains électeurs ne disent pas exactement leur intention de vote. Ils n'avouent pas leur intention de vote. Et je viens de voir à la télévision que la Floride vient de tomber dans le camp de Donald Trump. Et donc, voilà, nous avons encore un exemple concret où les sondages sont totalement passés à côté.
René Lake, les démocrates ont vu d'un mauvais œil le président Trump continuer de battre campagne, de tenir de grands meetings électoraux. Est-ce que le resserrement au niveau des chiffres dans les résultats ici ne lui donne finalement pas au fond?
Je crois que oui, je crois que je suis de cet avis. Je crois qu'au finish, la stratégie de quoi 4, 5 jusqu'à 6 même, je crois, meetings par jour sur la dernière ligne droite de Donald Trump a payé, puisqu'on se rend compte dans l'analyse des chiffres du vote d'aujourd'hui qu'il y a eu une mobilisation républicaine importante. Et son effet même se fait sentir au niveau de sénatorial. Il semblerait que ça risque d'être plus serré qu'on ne le croyait. Au moment où on pensait que la majorité serait obtenue par les démocrates relativement facilement, mais ça n'a pas été le cas. Mais si vous permettez, je vais juste dire que je ne suis pas tout à fait de l'avis de vos invités sur la question des sondages. En 2016, c'est un mythe de dire que les sondages en 2016 se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. Si vous regardez les sondages nationaux en 2016, qui donnaient une victoire autour de 3 500 000 votes de plus à Hillary Clinton, c'est exactement ce qui s'est passé. Seulement maintenant, au niveau des États, et notamment les fameux États du Mid-Atlantique, Minnesota, Michigan et Pennsylvanie, il n'y avait pas justement de sondage rigoureux parce que la campagne d'Hillary Clinton ne pensait pas que c'était des États qui étaient en jeu. Donc c'est plus une fausse interprétation de la campagne de démocrates qui malheureusement a été suivie également par la presse quelque part, qui avait donné cette impression-là. Mais les sondages au plan national en 2016 ont correspondu exactement aux résultats qui ont été proclamés. Et ici, je pense qu'on sera à peu près dans le même type de schéma. Je pense qu'au niveau national, du vote populaire, Biden va l'emporter, mais que ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le disait au niveau du collège électoral. Mais encore une fois, on peut se retrouver dans la situation de 2018 où, d'ici 1, 2 ou 3 jours, les résultats pourraient apparaître et être interprétés différemment.
René, notre ingénieur nous signale que Biden, l'ancien vice-président, le candidat démocrate, est en train de parler à Wilmington, dans le Delaware. Malheureusement, pour le moment, on va demander à Jean-Roger de suivre ce qu'il est en train de dire. Comme ça, on l'aura dans 2 minutes, si possible. Tim.
Oui, professeur Caesar, l'idée que l'on puisse ici aux États-Unis gagner le vote populaire, mais perdre une présidentielle n'est pas toujours bien comprise par nos auditeurs en Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question des grands électeurs ici aux États-Unis?
Oui, Lionel. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Il y a des problèmes de sondage.
Oui, je disais que l'idée qu'on puisse gagner le vote populaire mais perdre une présidentielle ici aux États-Unis n'est pas toujours bien comprise par nos auditeurs en Afrique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène?
Je coupe, Léonard.
Allô?
Nous avons quelques soucis.
Il y a eu quelques incidents techniques. Professeur Jim Caesar, Timothée voulait savoir, voulez-vous demander d'expliquer à nos auditeurs ce problème ou cette dichotomie, si je puis dire, entre vote populaire et grands électeurs. Professeur Caesar?
Et chaque État a un nombre de grands électeurs qui sont le nombre qui est donné à chaque État. Et le nombre est égal à le nombre de représentants et le nombre de sénateurs. C'est le nombre de grands électeurs. Et on vote par grand électeur. Le vote populaire ne compte pas. Ça détermine dans les États comment les grands électeurs vont voter. Mais on ne compte pas le vote national. Donc, ce n'est pas une élection directe nationale. C'est ça le cas. On a déterminé ça au début, et ça, il y a des raisons pour le maintenir. Mais beaucoup de gens veulent le changer, mais pour le moment, c'est le système que nous avons. Donc, ce n'est pas une démocratie dans le sens pur du terme.
Ce n'est pas le suffrage universel direct, en quelque sorte, professeur.
C'est le sondage direct en chaque.
Alors, quelle était la logique?
Les grands électeurs, mais les grands électeurs, ils votent, ils sont déterminés de voter. Et c'est bien possible de gagner un État comme Californie, qui a une population qui est égale au Canada, et dans des autres États qui sont très durs, et on fait la détermination avec les grands électeurs et non par le vote de la population globalement.
Mais quelle a été la logique derrière ce système?
Alors, le système a été fondé il y a 200 ans et chaque État était très important au moment et on a déterminé comment on va décider l'élection et chaque État voulait maintenir un certain nombre de grands électeurs. Donc, ce n'est pas commencé avec l'idée d'une démocratie nationale. Donc, on a continué à avoir ce système qui est basé sur les États. Et donc, c'est possible d'avoir un résultat où le vote national ne correspond pas à le vote grand électeur pour déterminer le résultat.
Merci, professeur Jim Caesar. Professeur Edgar Colley et René Lay, que nous vous retrouverons dans quelques instants. En attendant, nous retrouvons Jean-Roger Bion pour la dernière mise en... Jean-Roger?
Oui, bonjour Idrissa. Les choses évoluent. Ce qu'on peut dire d'emblée à ce moment de la course, c'est que la compétition reste serrée entre les deux candidats. Donald Trump a remonté la pente allègrement, selon les prévisions de VOAfrique. Le candidat républicain est maintenant à 130 grands électeurs. Le candidat démocrate Joe Biden est, lui, à 205 électeurs, selon les prévisions donc de la Voix de l'Amérique. Pour arrêter le compteur, vous le savez, l'un des deux candidats doit franchir le seuil des 270. Les candidats doivent se partager un total de 538 grands électeurs qui composent donc le fameux collège électoral. Et je l'ai dit, pour le moment, 205 pour Joe Biden et 130 pour Donald Trump, selon les prévisions de VOAfrique. Cela fait seulement 335 grands électeurs. Il reste donc, selon nos prévisions, 203 grands électeurs à annoncer, à conquérir donc par les deux candidats. Cela dit, il ne faut pas donner de pronostic en ce moment. On ne peut pas parler de pronostic en ce moment parce que ce ne sont que les prévisions affichées par les médias américains. Et Donald Trump a gagné, par exemple, un grand État fournisseur de grands électeurs comme l'Ohio, pendant que Joe Biden a gagné la Californie. Il reste beaucoup d'États dont le dépouillement se poursuit et dans les heures qui suivent, on en saura davantage. Idrissa.
Ok, alors on vous retrouvera dans moins de 10 minutes encore pour la dernière mise à jour de ces résultats. Timothée?
Tout à l'heure. Oui, Idrissa, je crois que c'est René ou quelqu'un l'a mentionné, le vote par anticipation a battu tous les records cette année. Et avant, enfin au jour de l'élection hier, plus de 100 millions pardon, d'Américains avaient déjà voté, et donc soit en personne, soit par voie postale. Alors, est-ce que cela ne pose pas un problème pour le dépouillement du scrutin, étant donné que dans certains États, on accumule tous ces bulletins de vote et on les dépouille qu'à partir du jour de l'élection?
Nous aurons tout à l'heure René Lake, Timothée. Peut-être que le professeur Edgar Colu pourrait répondre à votre question.
Oui.
Oui, parce que si on prend le cas d'un État comme, je crois, le Wisconsin, où les gens ont voté par anticipation et ils ne vont commencer, où ils ont commencé le dépouillement ce matin, évidemment, cela va prendre, d'après ce qu'ils disent, peut-être 24 heures, 48 heures pour finaliser le décompte, le dépouillement de tous ces bulletins de vote. Et donc, cela veut dire que peut-être que nous n'aurons pas de résultats définitifs jusqu'à peut-être mercredi, demain ou jeudi, dans la mesure où des millions de personnes ont voté selon ce système. Et si les gens n'ont pas commencé le dépouillement, comme c'était le cas en Floride, où ils ont commencé immédiatement dès que les bulletins de vote sont arrivés dans les différents bureaux, nous sommes dans l'attente. Et je crois que c'est vraiment là où nous nous acheminons. Nous n'aurons peut-être pas de résultat définitif avant 2 ou 3 jours.
Maintenant, René, je vous ai entendu dire que vous alliez écouter l'intervention de Biden à la télévision. Qu'a-t-il dit?
Oui, écoutez, je n'ai malheureusement pas pu tout entendre parce que j'ai été également appelé par une autre radio. Mais globalement, il disait simplement, il appelait, je crois, à la patience. D'abord, il remerciait tous les gens de son équipe, de sa campagne. Il a félicité les élus locaux qui ont remporté leur élection. Et il a appelé à la patience en disant que ça pourra prendre du temps, le temps que le décompte se fasse. Voilà en gros ce que j'ai pu entendre, mais je n'ai pas tout écouté malheureusement.
Alors on peut dire justement en fait que le président Donald Trump, lui, ne s'est pas exprimé du tout depuis la clôture des bureaux de vote, n'est-ce pas?
Oui, alors il y a juste un tweet qui vient juste de tomber là à 12h44 et que j'ai là sous les yeux, Donald Trump, real Donald Trump. We are up big, donc nous sommes en avance, but they are trying to steal the election. Mais ils sont en train de chercher à voler cette élection. Nous ne les laisserons pas faire. Le vote ne peut pas être the vote cannot be cast after the polls are closed. Les votes ne peuvent pas continuer à s'exprimer après la fermeture du vote. Donc on ne sait pas trop ce que veut dire cette dernière phrase. Mais voilà ce que moi je vois là sur mon écran, un tweet qui est tombé à 12h44. On va peut-être aller dans une situation un peu conflictuelle dans les jours qui viennent.
Tim.
Oui, je crois que le président Trump fait allusion à la situation dans certains États où le vote anticipé, le bulletin de vote, tant qu'ils ont été postés dans les délais, peuvent continuer d'être reçus même après le jour de l'élection. Je crois que c'est à ce phénomène
oui.
que
nous faisons. Jusque trois jours après l'élection.
Je crois, professeur Jim Caesar, si vous êtes encore avec nous, que ça s'applique particulièrement à la Pennsylvanie, puisque la Cour suprême a dit que la Pennsylvanie pouvait le faire. Et le président Trump a vraiment critiqué la Cour suprême pour avoir donné le feu vert à la Pennsylvanie, n'est-ce pas?
Oui, des issues, des problèmes comme ça, parce que ce sont les États qui font les lois pour l'élection. Et l'État de Pennsylvanie a dit que bon, vous pouvez envoyer votre ballot par courrier, mais il donne à l'État l'idée qu'il peut compter les votes pendant 3 ou 5 jours après la date de l'élection. Donc, ils ont pour le moment, ils ont les votes, mais il y a 2 ou 3 jours pour compter. Et puis, autre problème, on peut dire que si un problème avec le courrier, il faut attendre pour recevoir les votes. Donc, c'est très compliqué dans cet état-là. Et la possibilité est toujours là pour des difficultés de compter les voix réellement.
Oui, Tim?
Oui, donc, et c'est le propre des États-Unis, du système fédéral américain, qu'on ait autant de commissions électorales au niveau des États que d'États aux États-Unis. Donc, c'est autant de systèmes électoraux, de codes électoraux qu'il faut gérer en même temps pour chaque élection ici aux États-Unis.
Oui, Tim, à ce sujet, et je vais m'adresser au professeur Edgar Colley, on dit qu'il est difficile de manipuler le système électoral aux États-Unis parce que c'est 50 États plus le District of Columbia, la capitale Washington DC, qui détermine les votes et de façon très souveraine. Le gouvernement fédéral ne peut pas centraliser les votes.
Oui, en fait, c'est un peu la particularité des États-Unis où ils n'ont pas un système fédéral pour les élections. Ils ont un jour où tout le monde doit voter, c'est le 3 novembre. Mais chaque État met en place son propre système. Par exemple, là où je suis maintenant, je suis dans l'État de Washington, parce que tout le scrutin se fait par la poste. Les gens votent par correspondance. Dans d'autres États, ceci est limité à certaines personnes. Et ce qui fait que une manipulation au niveau, par exemple, c'est pas dans des États, dans des pays un peu moins avancés démocratiquement, n'est pas possible au niveau des États-Unis. Mais vous avez aussi dans ce cas maintenant, quel est le législateur qui domine l'État? Et dans ce cas-là, ces gens-là déterminent comment le système électoral va se programmer. Et donc, je crois que c'est une bonne chose, mais aussi cela complique un peu, n'est-ce pas, les choses, parce que nous n'avons pas un système centralisé. Quelqu'un venait de faire allusion à la Pennsylvanie, où si vous envoyez votre système de vote post-marqué le 3 novembre, on pourra l'accepter 3 jours après. Et donc ceci, n'est-ce pas, c'est une particularité pour l'État de la Pennsylvanie, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs.
Merci. Merci, professeur Edgar Colley. Professeur Jim Caesar et René Lake, restez à l'écoute pour vos conclusions après Jean-Roger Bion, que nous allons essayer de retrouver. Écoutez, je vous demande donc maintenant de tirer vos conclusions, puisqu'on est presque à la fin de cette édition spéciale. Quelles conclusions tirez-vous pour le moment de cette nuit électorale, de cette élection du 3 novembre? Commençons par le professeur Caesar.
Alors, la conclusion est simple, il faut avoir la patience, c'est la seule solution, ça va prendre du temps et on verra. Donc, c'est pas une élection fausse, mais il faut attendre le résultat, c'est
merci.
Simple.
Merci, professeur Edgar Colley.
Oui, je rejoins ce que dit notre collègue tout à l'heure, c'est de la patience. Nous ne saurons pas à coup sûr qui sera le prochain président des États-Unis dans les 2 ou 3 prochains jours. De la patience en espérant que tout se déroulera selon le souhait de chaque citoyen américain.
Merci. René, à vous le dernier mot.
Oui, Idrissa, apparemment, la partie que je n'avais pas entendue du discours de Joe Biden, il a dit qu'il pense que sa campagne est en voie de gagner cette élection et qu'il s'agit d'être patient. Et j'imagine que Trump pense la même chose si on interprète son tweet. Donc je crois qu'il va falloir être effectivement patient, attendre encore 1 ou 2 jours pour avoir le cœur net par rapport au résultat définitif de cette élection.
Présidentielle américaine, édition spéciale, V électorale 2020 sur VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia, de Timothée Donangmaï et notre confrère Jean-Roger Bion et à la technique Lionel Gahima. Nos remerciements à Jim Caesar, le professeur, Edgar Colley et René Lake. Washington, la voix de l'Amérique, VOA.